Trouver l'excellence, se mettre la pression, avoir peur de l'échec, se sentir dépassé, en perte de contrôle, courir après le temps, penser trop, se juger beaucoup, le perfectionnisme est un piège. Je suis Gaëlle, coach certifiée et perfectionniste en rémission. À travers ce podcast, je veux vous aider à décrypter les tours que nous joue notre cerveau dans cette course vaine qu'est le perfectionnisme. Bonne écoute et bienvenue sur Génération Perfectionniste.
Bonjour à tous, vous écoutez le premier épisode du podcast en 2024. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour vous envoyer mes meilleurs vœux. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année, j'avais envie de m'adresser plus particulièrement aux hommes et ou aux femmes de ces hommes qui sont peut-être perfectionnistes. Pour cela, j'ai souhaité inviter Amélie Pro. Amélie, c'est une amie nantaise rencontrée via les réseaux sociaux. Elle est coach certifiée en PNL après s'être formée au Canada et j'aime beaucoup son approche, influencée justement par le coaching nord-américain. Amélie, elle accompagne les managers et en particulier les hommes et vous verrez, c'est quelqu'un de très spontané. Je l'apprécie beaucoup et c'était pour moi l'invité idéal pour répondre à la question suivante. Le perfectionnisme touche-t-il les hommes ? C'est parti ! Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à la question suivante. Le perfectionnisme touche-t-il les hommes ? Alors, vous vous en doutez, j'ai une petite idée de la réponse, mais pour aller plus loin justement dans cette réponse, j'ai souhaité inviter Amélie Pro, qui est une amie coach professionnelle. Amélie, elle soutient les managers et plus particulièrement les hommes. Bonjour Amélie.
Bonjour Gaëlle.
Comment vas-tu ?
Écoute, je vais super bien. Je suis extrêmement heureuse, voire excitée d'être avec toi aujourd'hui sur ce sujet passionnant.
Génial. Bah, écoute, le plaisir est partagé comme tu le sais. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots, Amélie ?
Écoute, oui, bien sûr. En quelques mots, j'ai 41 ans, c'est toujours pas mal à redire. Je suis effectivement coach professionnelle certifiée en PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. J'ai été formée lors d'une expatriation au Canada et j'accompagne effectivement, donc tu l'as dit, les managers, en particulier les hommes. Et ce que je dis toujours, c'est le cas, c'est que je les accompagne pour qu'ils soient leurs meilleurs coachs eux-mêmes et ceux de leur équipe.
Bon, génial. Bah écoute, sans plus tarder, abordons cette question que j'avais envie de poser ce soir. Moi, tes réponses m'intéressent. Peut-être que la première question qu'on peut se poser, est-ce que le perfectionnisme concerne autant les hommes que les femmes ? Quel est ton avis, toi, sur la question ?
Écoute, mon avis est... Tu t'en doutes évidemment que oui, le perfectionnisme, alors je ne sais pas s'il touche autant les hommes que les femmes, mais il touche clairement les hommes et je pense en fait différemment des femmes.
Ok, est-ce que tu peux développer ? Qu'est-ce que tu entends par différemment ?
Alors différemment parce que évidemment ça ne sont pas sur les mêmes sujets, c'est-à-dire que alors moi je me base de manière assez humble sur tous les hommes que j'ai coachés, que j'ai accompagnés, je retrouve des traits communs en fait. Alors ce perfectionnisme sera pas tellement sur les enfants, comment on les éduque, etc. qui je pense est quand même un sujet, c'est un peu cliché mais plus féminin. Les hommes vont axer leur perfectionnisme sur honnêtement number one la réussite professionnelle, la carrière. C'est-à-dire que ils sont ambitieux, ils veulent atteindre tel type de poste, monter leur boîte, ça sera un sujet de perfectionnisme. Deuxièmement, je retrouve pas mal d'hommes qui sont assez perfectionnistes dans le sport. Là vient la notion d'exploit. Ils veulent relever des exploits, des challenges. Troisièmement, il y a un idéal, une quête de sens, que ce soit l'écologie, que ce soit contribuer, la curiosité, apprendre. Donc il y a un perfectionnisme aussi sur ce volet-là.
Ok. Ouais, c'est intéressant parce que là où les femmes, alors je te rejoins, vont être touchées, alors pas mal sur le volet maternité,
J'en parle d'ailleurs dans un podcast, le perfectionnisme parental, mais pas que. Il y a aussi tout l'aspect réussite professionnelle pour les femmes. Moi, les personnes que j'accompagne, c'est souvent autour de questions du travail aussi. Mais je te rejoins et c'est un peu l'idée que j'en avais. Je pense que la réussite, la carrière, le pouvoir peut-être, j'ose utiliser ce mot, ce sont des choses importantes pour les hommes et peut-être sur oui autour desquelles ils se comparent pas mal entre eux aussi.
Ouais, t'as tout à fait raison. En fait, évidemment, la carrière est importante pour les femmes. Je vais pas te dire le contraire. Mais je vois quand même qu'avec les hommes, héritage d'une société patriarcale, ça c'est un autre sujet. En fait, c'est absolument number one. Donc, t'as tout à fait raison. Ils se comparent. En fait, finalement, pas tant avec leurs femmes ou ils se comparent beaucoup avec leurs amis, avec leurs collègues, avec les autres hommes. Et d'une certaine manière, en fait, ils ressentent une espèce de pression de la société de si je n'ai pas réussi avant tel âge, avant 40 ans, alors j'ai échoué. En gros, c'est ça, finalement, la principale peur qui va alimenter leur perfectionnisme, c'est si je ne suis pas parfait, à la moindre erreur, tel mail mal envoyé, telle réunion à laquelle j'aurais mal participé, mais en fait, je vais me planter, je vais me faire virer et j'atteindrai jamais mes ambitions.
Ouais, on voit très clairement après quel type d'idéal en fait il court ici. Et alors, à quoi ça ressemble pour les hommes? Comment ça se manifeste en fait chez eux?
Alors, blocage des émotions. On ne prononce pas le mot émotion avec un homme. Donc, typiquement, ils ne diront rien, ils ne parleront pas, ils ne voudront absolument rien montrer parce qu'un homme doit être fort, un homme perfectionnisme ne doit pas montrer qu'il ne sait pas, qu'il balbutie, qu'il rougit. Ça, c'est terrible pour un homme. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir en coaching et qui me disent, comment est-ce que je peux contrôler mes émotions? J'ai rougi en réunion, je ne sais pas quoi faire. Donc, les émotions en premier. Deuxièmement, un immense besoin de contrôle. De tout contrôler. Tu sais, je te parlais des exploits sportifs, mais c'est aussi un peu lié à ça, contrôler son corps, être en super forme, donc contrôler aussi leur équipe. Ça voudra dire bah, faire leur boulot à leur place quasiment, tu vois, avoir donc une énorme charge de travail, avoir beaucoup de mal à déléguer. Donc évidemment, la conséquence de ça va être de l'anxiété. Et quand on va, donc je te parle de l'anxiété comme si c'était un petit sujet, mais tu vois, ça peut aller d'insomnie à une mauvaise gestion du stress. Ah, évidemment, beaucoup plus grave, le burn-out. Parce qu'ils se sont épuisés physiquement, parce qu'ils veulent tout contrôler. Ah, cette anxiété, ce stress, le fait de mal gérer les émotions.
Donc, ouais, la mauvaise gestion des émotions, je te rejoins, c'est un sujet qui est également très présent chez les femmes, mais je suis d'accord, les hommes, je pense, ont encore plus peur d'avoir honte, en fait, de montrer leurs émotions. Moi, c'est vraiment l'image que j'en ai. Alors, moi, majoritairement, ce sont des femmes qui me suivent. Il y a environ 15% d'hommes qui me suivent sur les réseaux. Et je sais que ça fait partie des sujets qu'on a pu aborder avec certains d'entre eux. C'est vraiment à la fois ce besoin de contrôle et d'être dans le moindre détail avec une norme hyper élevée, mais aussi en parallèle cette peur de montrer qu'ils peuvent être faillibles, qu'ils peuvent être vulnérables en fait vis-à-vis de leurs collègues, de leurs amis, comme tu disais. Et encore que peut-être vis-à-vis de leurs amis, je pense que la parole se délie peut-être un petit peu plus. Mais bon, toi, tu le sauras probablement mieux que moi, mais dans le cadre du travail, il n'y a pas de place pour ça, quoi, clairement.
En fait, tu vois, le mot qui me vient quand je pense aux hommes que j'accompagne, qui ont beaucoup entre 35 et 50 ans, c'est être irréprochable. Donc, effectivement, tu vois, tu parles de vulnérabilité. C'est évidemment des notions qu'on aborde énormément en coaching, parce que finalement, être vulnérable, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est être humain. Non, eux, ils se doivent d'être irréprochables. Parce que si on n'est pas irréprochable, à ce moment-là, ce qu'ils ont en tête, c'est la machine risque de s'écrouler. Et je n'atteindrai pas mon ambition, je ne pourrai pas relever mon challenge. Et d'une certaine manière, s'ils sont mariés ou en couple, tu vois, responsables de famille, enfin, pour eux, les conséquences sont très, très vite dramatiques. D'où, effectivement, bah, le besoin d'être totalement perfectionniste, d'être parfait plus que perfectionniste. Il faut être irréprochable.
Ouais, il y a cette pression de subvenir aux besoins aussi du foyer, tu penses, derrière ça?
Ouais, je pense qu'il y a, t'as tout à fait raison, même si ça peut sembler assez traditionnel, mais ça reste en fait assez présent, le fait de non seulement subvenir aux besoins du foyer, la fierté, mes amis gagnent tant, mes collègues gagnent tant, mon boss gagne tant, moi je dois gagner tant. L'argent reste quelque chose d'extrêmement important, qui est non seulement un vecteur de liberté, mais de statut social et de je veux avoir telle voiture, je veux pouvoir m'acheter telle paire de running. C'est très important. Et il y a aussi beaucoup, ça je l'entends beaucoup et je trouve ça même un peu touchant, beaucoup d'hommes qui me disent, mais moi, ma femme, elle porte tellement, elle s'occupe des enfants, elle bosse, elle fait les courses, c'est elle qui va à l'école si mon enfant est malade, mais je ne peux pas la décevoir, en fait. Cette peur de la déception, que ce soit de leur boss, que ce soit de leur équipe, que ce soit de leur femme, est très, très présente de, mais si je craque, tu vois, si je le dis, mais je vais les décevoir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas, tu vois, c'est... Je trouve que j'ai beaucoup face à moi comme des édifices qui ont peur de craquer, en fait. C'est ça, pour eux, la vulnérabilité, c'est des fissures. Moi, comme femme et comme coach, évidemment, pour moi, c'est ça qui est beau, ce sont nos fissures à tous, mais pour eux, la peur que l'édifice craque et ploc, tombe.
Ouais, c'est super intéressant. Et je pensais tout à l'heure, on a parlé de peur d'échouer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et tu as parlé de système patriarcal, est-ce qu'il n'y a pas un héritage aussi de cette peur de perdre leur statut, de perdre leur poste, de par, je ne sais pas, ce qu'ils ont entendu aussi, tu vois, quand ils étaient gamins à l'école. On a parlé d'émotions, mais notre génération, hein, encore pas mal, on a quand même vécu dans une atmosphère où les émotions, fallait plutôt les mettre sous le tapis, et les garçons encore plus. Je veux dire, il ne fallait pas pleurer comme une fille, fallait se montrer fort. Est-ce que tu crois que c'est aussi peut-être ouais, l'éducation en fait, qu'ils ont reçue qui est encore présente pour eux?
En fait, je pense, et tu as évidemment tout à fait raison, toutes ces attentes, j'appelle ça des attentes sociétales, sont encore extrêmement fortes. Je ne me rappelle plus du titre exact, mais chaque année, il y a un numéro du Forbes avec les plus grandes réussites. Ça, il y a beaucoup d'hommes qui m'en parlent. Tu vois, pour moi, c'est quasiment un cliché, mais en disant, il y a tel type d'homme, il y a telle grille de salaire, etc. Donc, tu as évidemment tout à fait raison, les attentes de l'école, le fameux, tu sais, peut mieux faire,
ouais,
qui est quand même assez français. Moi qui ai vécu au Canada, il n'y a pas de peut mieux faire, c'est bravo, tu as été là, tu es top, c'est génial. C'est un autre sujet, mais c'est encore très important. Donc, ce peut mieux faire les tétanise encore, mais si je me fais virer, comme j'ai pu me faire virer de l'école, Et puis, c'est ce qu'on se disait, c'est que eux, ce perfectionnisme, c'est un idéal de réussite, d'ambition, mais si j'ai plus de job, qui je suis, en fait? Donc là, on est à un niveau identitaire. Les femmes, je dis encore ça très humblement, parce qu'évidemment, chaque parcours est différent, mais on sait qu'avec la maternité, pour celles qui ont des enfants, voilà, on a des parcours de vie qui peuvent changer. Mais les hommes, on le sait toutes, quand on va à un apéro, on demande à un homme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dire que je suis au chômage pour un homme, c'est compliqué encore aujourd'hui en 2023.
Est-ce que tu penses, et là encore, je fais un parallèle avec les femmes que moi j'accompagne, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de manque de confiance en soi? Alors même si les hommes ont énormément de mal à, je pense, se l'avouer, ou un, tu vois, sentiment d'imposture peut-être.
Bien sûr.
Ouais.
Ouais, bien sûr. Cette exigence de, tu t'en rends compte, j'imagine, avec les femmes que tu accompagnes, parce que d'une certaine manière, pour le coup, je pense que les mécanismes sont exactement les mêmes. Cette barre est tellement haute de, si j'ai pas telle promotion, si j'ai pas tel salaire, tu sais, c'est une vision très noire ou blanche de la vie. Donc cette barre est tellement haute que c'est évidemment totalement paralysant. C'est figeant, parce que on sait tous, mais que la vie est plus compliquée que ça, que on n'est pas défini par un poste, on n'est pas défini par un salaire, que la vie est compliquée, que c'est aussi le chemin qui est intéressant, et que donc forcément, il y a beaucoup d'hommes que j'accompagne qui me disent, mais moi, ça m'arrive d'être tétanisée en réunion en me disant, mais si je te dis, je reviens à ce que je t'avais dit tout à l'heure, si je balbutie, si je rougis, si j'ai pas la bonne réponse, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Avec donc ce syndrome de l'imposteur et le regard de l'autre. Je reviens aussi à ce que je t'avais dit, de cette peur de décevoir. Les attentes sont tellement hautes. Ce sont évidemment leurs propres attentes. Bafouiller en réunion. c'est évidemment, c'est pas grand-chose. Avec cette, tu vois, c'est aussi ça que je complète avec ça. Je pense aussi une différence avec les femmes, c'est qu'une femme qui rougit, on peut trouver ça touchant. Un homme qui rougit, c'est compliqué pour lui. Un homme ne rougit pas. Et donc, une honte liée à ça. Je pense qu'il y a pas mal de honte. Tu me parlais d'émotion. Donc, tu vois, une femme qui pourra pleurer, on se dira, bon, elle est fatiguée. Ce sont des clichés. Elle est intense. Un homme qui pleure en entreprise, c'est un tsunami. Donc, le sac à dos est lourd à porter.
Est-ce qu'il y a des croyances qui sont souvent partagées justement par les hommes que toi tu suis autour du perfectionnisme?
Oui, il y a beaucoup. Je dois être irréprochable. Si je ne suis pas irréprochable, c'est que je suis nulle. Tu vois, vraiment ce que je te disais, le côté tout noir ou tout blanc. Je retrouve pas mal de croyances de. Je reparle à nouveau des émotions. Donc, si j'ai des émotions, c'est qu'il y a un problème. C'est une espèce de méfiance vis-à-vis des émotions. Une croyance un peu cliché, mais qui est vraie, c'est que si c'est pas parfait, c'est nul. Donc, tu vois, donc une barre d'une hauteur colossale. Et beaucoup de croyances autour du contrôle. Tu vois, les hommes que j'accompagne savent d'une certaine manière qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, mais si je ne contrôle pas tout, il va y avoir une erreur et ça va m'être fatal.
Comment est-ce qu'on peut les aider alors, ces hommes, Amélie? Quelle piste, toi, tu leur donnes pour, on va dire, à la fois atteindre leurs objectifs pro, leurs ambitions, parce qu'on sait que c'est important pour eux, mais tout en lâchant ce perfectionnisme?
Écoute, j'aurais pas mal de pistes, heureusement, parce que c'est un petit peu mon travail, mais pour être factuelle et concrète, je dirais premièrement, parce que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes, et c'est pas un jugement de ma part, mais qui ont honte d'aller voir une coach ou un thérapeute ou autre, parce que c'est encore un peu la honte de se faire aider, accompagner. Donc, je dis pas à tous les hommes d'aller se faire coacher, mais au moins de parler, de communiquer, en fait, de voilà, c'est juste normal, naturel, voire même ça libérera la parole dans leurs équipes. D'avoir un manager qui dit bah écoute je suis pas parfait, j'ai peut-être fait une erreur mais j'assume. Donc premièrement, s'ouvrir et communiquer. Deuxièmement, ça je le dis beaucoup en coaching, la politique des petits pas. OK, on baisse un peu la barre et on découpe. Pour moi, c'est la force des grands et c'est absolument essentiel. Troisièmement, quelque chose qui je pense est absolument essentiel pour les hommes, le plaisir. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment est-ce que vous déchargez vos batteries? Est-ce que c'est en allant faire une rando? Est-ce que c'est en courant? Est-ce que c'est en parlant? Est-ce que c'est en allant boire un apéro? Et ça, de l'inscrire dans votre agenda. Voilà. Et quatrièmement, ça c'est mon côté femme qui a vécu au Canada, c'est quand même quelque chose que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils agissent. Donc, c'est pas parfait, il y a des erreurs. Moi, j'ai vu des erreurs criardes dans des expériences professionnelles de sites web avec des fautes d'orthographe. Mais c'est à la loi de Pareto, le 80-20. 20% de vos actions pour 80% de résultats. Donc, c'est un peu un clin d'œil que j'ai, mais inspirons-nous un petit peu parfois des Américains et des Canadiens sur je l'ai fait, c'était déjà pas si mal en fait, en ciblant les priorités.
Ouais, c'est super intéressant. Et est-ce qu'on n'a pas envie d'ajouter aussi, je pense, et on en a beaucoup parlé déjà ensemble, réussir à sortir un peu les émotions de dessous le tapis. Je sais que c'est difficile et que ça va à contre-courant de ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais peut-être en effet en essayant d'analyser un peu ce qui se passe pour eux au niveau émotionnel. Alors, c'est plus facile à faire quand on le partage avec quelqu'un, donc comme tu le disais, en coaching ou en thérapie ou autre. Moi, j'y crois vraiment, enfin, même si ça va réellement à contre-courant de tout ce que nous renvoie la société, il est temps que les hommes puissent aussi libérer leurs paroles, échanger sur tout ça, sur partager leurs difficultés avec leurs potes, avec leurs collègues dans lesquels ils ont confiance peut-être. Je pense qu'il est vraiment temps de faire tout ça. Et ça me fait penser à un bouquin qui a été écrit par un homme d'ailleurs. Et je pense que je ferai peut-être un épisode de podcast sur ce livre. C'est L'apprentissage de l'imperfection. Et c'est Tal Ben-Shahar qui l'a écrit, qui est un homme. Et vraiment, c'est ce qu'il dit. Enfin, il est hyper important de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, de pouvoir partager, parce qu'en fait, la parole, ben, ça libère quoi, ce qui se passe. Bon, parfois, on le fait déjà à la maison avec sa conjointe, et ça peut aider pas mal, mais un regard extérieur, ça peut aussi permettre de voir des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut peut-être pas entendre de la même façon.
Tu as tout à fait raison. Et puis, tu sais, moi, je sais que les managers que j'accompagne, tu vois, je leur dis souvent, mais en fait, enfin, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et je pense, je ne suis pas la seule à penser, que l'intelligence émotionnelle est absolument nécessaire quand tu drives une équipe, que tu as en face de toi des humains et pas des robots. Et puis, si tu te places dans les pompes de leurs collègues ou des gens qui sont dans leur équipe, mais, enfin, je ne sais pas, mais personnellement, qui a envie d'être managé par quelqu'un de totalement intransigeant, qui, tu sais, qui n'a jamais d'aparté, qui ne se dévoile jamais? C'est la base, en fait. C'est être ni faible ni rien, c'est être humain et développer son intelligence émotionnelle pour soi et pour les autres, que ce soit en couple avec sa femme ou quand on dirige une équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah bah, je suis complètement d'accord. Et l'intelligence émotionnelle, en effet, c'est cette faculté de pouvoir reconnaître ce que va ressentir la personne en face de toi. Et quand tu arrives à le faire pour toi, bah, en général, c'est assez facile ensuite de reconnaître ce qui se passe pour les autres.
Ouais.
En fait, ouais, j'aimerais réussir à convaincre les hommes qui nous écoutent, s'il y en a, être à l'écoute de leurs propres émotions, ça peut vraiment leur ouvrir des portes pour justement comprendre ce que vivent leurs équipes, ce qu'ils traversent, et peut-être aussi mieux les accompagner.
Et puis en plus, tu sais, libérer les émotions, je trouve qu'on a aussi souvent l'image du type qui s'effondre en larmes, mais il n'y a pas que des émotions négatives, heureusement. Enfin, je dis ça en plaisantant, mais tu vois, c'est juste la base en fait des relations humaines, que ce soit la joie.
Ouais, complètement. Je savais qu'on aurait plein de choses à se dire autour de ce sujet.
Vaste sujet, passionnant. Ouais, passionnant parce que il y a beaucoup de choses à dire et à faire concernant les hommes et voilà. Et tout ce dont on vient de se parler.
Ouais. Pour terminer, est-ce que peut-être tu as envie d'ajouter quelque chose à ce sujet ou à ton sujet sur la façon dont on peut aussi te trouver sur les réseaux sociaux, etc.
Écoute, j'ajouterais peut-être peut-être une chose. J'aime bien parler métaphoriquement. Et souvent, tu vois, pour moi, une carrière professionnelle, c'est un peu, même si ça semble un peu cliché, mais j'assume, on peut avoir un peu l'image de la rando, tu vois. Moi, les hommes que j'accompagne, l'idée, c'est pas de leur dire non, le sommet est trop haut, vous n'irez jamais, vous êtes trompés, restez dans la plaine. Pas du tout. Je reviens sur le chemin. Bah, l'idée, c'est quand même de le rendre un peu sympathique, ce chemin, quoi. Que ce soit en étant accompagné par un Sherpa qui est un coach, en se fixant des jalons et en prenant pas mal de plaisir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, écoute, on peut me retrouver notamment sur LinkedIn. Je suis assez présente sur LinkedIn, à mon nom Amélie Pro, ou sinon sur mon site web ameliepro.fr. Voilà.
Génial. Bah, merci beaucoup, Amélie.
Merci infiniment, Gaëlle. C'était un grand, grand plaisir.
Plaisir partagé. À bientôt.
C'était trop sympa. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.